Bienvenue au village alternatif. Et on vous souhaite le bonjour également. Un débat qui peut-être va vous toucher particulièrement ce matin sur le podium du village alternatif. Un débat qui ne peut pas nous laisser en tout cas indifférent. Où en est l'application de la Convention internationale des droits de l'enfant ? On parle beaucoup des droits de l'homme, c'est vrai. On oublie souvent aussi que les enfants sont là, qu'ils ont aussi, eux, des droits. Mais on ne le sait pas depuis très longtemps, visiblement, à en croire les textes juridiques. Pour en parler avec nous, eh bien, j'ai à ma gauche M. Bernard Boueton. M. Bernard Boueton est responsable de l'information à Terre des Hommes, à Lausanne. Et en face de moi, Pierre Charpier, il est avocat. Et il est président, membre, responsable... du CIDE. Le CIDE, c'est le Comité international pour la dignité de l'enfant. Alors peut-être il faudrait, pour resituer un peu ce débat, resituer un petit peu les enjeux de ce débat, s'interroger un peu sur cette Convention internationale des droits de l'enfant. D'abord, on a dû en faire une. Et pourquoi, en fait, que signifie en fait cette Convention? Elle existe depuis 1989, si j'ai bien compris, Bernard Boueton. Elle a été adoptée par les Nations Unies. Depuis récemment, je crois, quelques 134 pays l'ont adoptée. Alors, en deux mots, vous pouvez nous situer un petit peu cette convention et son contenu.
Oui, alors, cette convention internationale sur les droits de l'enfant a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989. Elle suit la Déclaration internationale des droits de l'enfant qui, comme le mot l'indique, n'était qu'une déclaration, ou si l'on peut dire une déclaration d'intention. La Convention, elle, est soumise à la signature des États qui, en signant puis en ratifiant, s'engagent à respecter ces droits de l'enfant. Une petite différence juridique qui est que lorsqu'un État décide de ratifier une convention internationale, ça veut dire qu'il s'engage à transmettre à l'ONU des rapports sur les progrès des droits en question, mais aussi il s'engage à adapter sa législation nationale au texte qu'il a signé. C'est pour ça qu'il y a une différence entre les États qui ont signé la Convention et ceux qui l'ont ratifiée. Il reste que sur le plan de la simple signature, donc de l'engagement quand même officiel, la plupart des pays du monde l'ont signé et on peut effectivement s'interroger sur pourquoi un tel consensus, alors que beaucoup de conventions internationales liées aux droits de l'homme n'ont pas du tout ce nombre d'États et de pays qui la signent.
Alors pourquoi ? Commençons par là. Pourquoi d'abord ce consensus ? Mais, on va poser la question, mais peut-être pourriez-vous nous donner en bref les principaux axes, les principales du contenu de cette convention tout de même.
Alors quand on lit la Convention internationale sur les droits de l'enfant, on a le sentiment d'une accumulation de banalités un petit peu, puisqu'il s'agit du droit à l'éducation, du droit à la protection contre toutes les formes d'exploitation, par la violence, par la prostitution, une lutte contre l'engagement des enfants dans les armées ou dans les guérillas, etc. En fait, ce qui est très important, et plus que l'énumération des articles de la Convention, c'est l'esprit de cette Convention. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire des règlements internationaux, on reconnaît l'enfant comme un être à part entière. Et à travers plusieurs formulations, on voit quand même, quand on la lit bien, une évolution. Je ne donnerai qu'un exemple. Les enfants, en matière juridique, sont toujours plus ou moins sous la notion d'autorité parentale. Et la Convention parle désormais de responsabilité des parents. C'est-à-dire que l'esprit de cette Convention, c'est de faire en sorte que l'enfant soit considéré comme un être à part entière, qui a voix au chapitre, et on pourra donner des exemples tout à l'heure, qui a voix au chapitre et qui n'appartient à personne.
Voilà. Alors,
ça, c'est très important.
C'est essentiel, effectivement. Alors, une question maintenant qui est importante aussi. On a beaucoup parlé de déclaration des droits de l'enfant. Une convention, on sait que c'est c'est pas tout à fait un traité, mais c'est même quelque chose qui juridiquement engage un État. On a beaucoup parlé de la déclaration des droits de l'enfant. Alors, pour situer, pourquoi je vous en parle ? C'est parce qu'il y a ici un concours dans le village que vous pouvez suivre vers le Conseil suisse d'activité de jeunesse, qui permet, grâce à un petit jeu, à repérer un peu sur les stands qui portent un des articles. Comme un jeu de loi, il faut composer un petit peu, au jeu de famille, plutôt composer un petit peu l'ensemble des articles. Et là, on obtient un jeu, justement. Alors, l'ensemble de ces articles de cette convention, en quoi se distingue-t-elle dans le contenu de la Déclaration des droits de l'enfant ?
Il n'y a pas beaucoup de différence. Ce qui est quand même très important, c'est que lorsqu'il y a l'établissement d'une convention, il faut savoir que cette convention a été établie avec l'aide de très nombreuses organisations non gouvernementales qui travaillent quotidiennement, souvent anonymement, pour les enfants. Et malgré l'apparence de banalité d'un certain nombre de textes, il faut savoir que le texte de cette convention a fait l'objet de très difficiles négociations. Je ne prendrai qu'un exemple. Il est évident que lorsque la convention parle de l'adoption internationale pour un certain nombre de pays, notamment les pays musulmans, rien que le terme pose problème. Alors, il ne faut pas se laisser impressionner, je dirais, par ce caractère un petit peu consensus de banalité. Ce n'est pas ça du tout. Si on voit la liste des pays qui ont signé et parfois ratifié cette convention et ce qui se passe réellement dans ces pays, je pense notamment à l'Amérique latine, mais aussi des pays d'Asie, c'est extrêmement impressionnant, c'est-à-dire qu'il faut absolument utiliser le texte de cette convention et le fait que, pour leur image internationale, les États la signent et la ratifient, il faut utiliser cet acte officiel et public pour exiger des États qu'ils fassent respecter les textes qu'ils ont signés. Et c'est là qu'est en fait le vrai travail, et qui est le travail notamment de l'opinion publique, notamment des organisations non gouvernementales, car vous savez peut-être que lorsqu'il y a une convention internationale de cette nature, il n'y a en fait aucune juridiction internationale devant laquelle des individus, des personnes, des enfants, des adultes ou même des associations peuvent se porter pour défendre les enfants. Je prendrai simplement l'exemple de la Cour internationale de La Haye, qui est un organisme de l'ONU aussi, mais qui ne peut être interpellé que par d'autres États. Autrement dit, si une ONG veut faire appel à une juridiction internationale pour condamner ou dénoncer un État en ce qui concerne une situation précise d'enfant, il faut que ce soit un autre État qui en fasse la demande auprès de ce tribunal. Alors, il y a d'autres associations ou d'autres tribunaux, si vous voulez, qui existent, mais qui ne peuvent agir que sur l'opinion publique. Mais on sait tous à quel point l'opinion publique est l'image d'un pays dans le monde. Les gouvernements y sont extrêmement sensibles, et on a plusieurs exemples, si vous le souhaitez.
Voilà. Alors, on va aussi écouter un peu M. Charpier. Vous êtes membre d'une organisation qui a un peu défrayé la chronique, si on peut dire, récemment, avec le Comité international pour la dignité de l'enfant. Vous êtes un petit peu à l'initiative de la fermeture d'une agence pour tourisme sexuel à Zurich. C'est important, justement, que vous soyez là pour cela, pour en parler. En fait, en ce qui vous concerne, vous êtes, en quelque sorte, comme organisation, celle qui va utiliser ce genre de convention et sur le terrain, essayer de l'appliquer.
Alors oui, tout à fait. Le Comité international pour la dignité de l'enfant se propose précisément de mettre les États face à leur engagement. En disant aux États, vous avez signé une convention, cette convention prévoit un certain nombre de droits pour les enfants. Qu'en faites-vous ? Qu'est-ce qui se passe chez vous ? Regardez un peu ce qui se passe, modifiez votre législation, modifiez vos pratiques, agissez contre les gens qui, d'une manière ou d'une autre, violent gravement les droits des enfants. Et alors, ce qui se passe, c'est que, comme les dénonciations n'ont lieu qu'officiellement ou sur un plan officiel ou par l'intermédiaire actuellement d'organisations officielles, nous avons pensé, depuis très longtemps, qu'une association absolument indépendante pouvait dénoncer, expliquer certaines choses, mettre en évidence certains faits et aller même plus loin, puisque dans le cas que vous citez, il y avait une agence suisse et l'autre pays concerné était la Thaïlande. L'idée, là, a été d'aller le plus loin possible en Suisse et donc de porter plainte pénale contre l'agence, sachant très bien que pénalement, en Suisse, les choses sont encore très ouvertes sur ce plan-là, mais sachant aussi que les effets secondaires de la plainte pénale pourrait modifier quelque chose ici en Suisse. Et c'est en fait ce qui s'est passé. Alors le but du Comité international pour la dignité de l'enfant est de faire respecter la Convention internationale pour la dignité de l'enfant, pour les droits de l'enfant, en faisant des enquêtes extrêmement précises, ce qui veut dire que nous n'allons pas nous contenter de déclarations de journalistes ou de particuliers venant expliquer que dans certains pays se passent des choses absolument épouvantables. Nous allons envoyer chaque fois quelqu'un de chez nous, mandaté par nous, pour faire une enquête sur place. C'est toute la différence entre une organisation comme Terre des Hommes et une association comme la nôtre, c'est que Terre des Hommes fait un excellent travail, un admirable travail sur le terrain de manière anonyme, et que engagé dans ce travail, cette organisation ne peut pas tout faire. Elle ne peut pas se mettre en même temps à dénoncer un ministre, à dénoncer un gouvernement, à dénoncer un État. Par contre, ce qu'elle peut faire, c'est donner certaines informations que nous allons exploiter et que nous allons mettre en évidence pour les dénoncer. C'est ce qui s'est passé avec l'agence zurichoise, où nous avons mandaté un journaliste de l'Hebdo, en accord avec l'Hebdo et en accord avec la télévision suisse romande, pour envoyer ce journaliste sur place, faire son enquête et ensuite donner la primeur à la télévision. Ça a été une jolie discussion de savoir qui allait avoir la primeur. La télévision a eu la primeur le mercredi soir et l'Hebdo pouvait publier le premier article le jeudi matin. Et dans la journée même, il y a eu de telles réactions que les choses ont effectivement bougé.
Alors j'aimerais un petit peu revenir sur la notion d'enfant, parce qu'en fin de compte, quand on parle de Convention internationale des droits de l'enfant, quand on parle d'enfant aujourd'hui, d'abord, c'est jusqu'à quel âge? Et puis, qui cela concerne? On m'a dit tout à l'heure, ça concernerait plutôt les enfants des rues, les enfants dans les zones urbaines, Bernard Boiton.
Non, alors j'aimerais dire quelque chose, parce que je crois que tout à l'heure, Bernard a dit quelque chose de très important. Dans le fond, la problématique de savoir qui est un enfant et qui est un adulte, il faut la poser de manière globale, sur le plan moral et sur le plan philosophique. Vous posez la question de manière juridique. C'est ce que nous ne voulons pas. Je crois que le fond du débat et le fond du problème est effectivement de considérer l'enfant comme étant un être humain à part entière. Il y a des enfants qui ont 40 ans parce que tout simplement, ils ne sont pas encore adultes. Juridiquement, on dira ils sont adultes. Mais un enfant d'une année, un enfant de 6 mois, un enfant d'un mois, c'est une personne à part entière. Il est évident qu'on ne va pas lui demander d'avoir la même capacité de raisonnement, d'avoir le même discernement qu'un adulte, qu'une personne plus âgée, qui aura fait un certain nombre d'expériences et qui sera plus évolué, mais c'est un individu à part entière. Ce n'est pas un petit humain, ce n'est pas un petit garçon dans le sens qu'il viendra un homme. C'est un être à part entière. Je crois que c'est là le fond du débat. Donc l'idée, ce n'est pas forcément de mettre une limite d'âge. Je crois qu'effectivement, il y en a une, mais ce n'est pas le fond du débat.
Je dirais que j'ai posé la question puisqu'il y a une convention. Une convention, c'est aussi, vous êtes avocat, une règle, donc un droit. Et quand il y a un droit, il y a forcément le juriste qui intervient. Il y en a, Boiton,
alors,
la notion d'enfant.
C'est ça. Il faut être très clair sur la notion d'enfant ou de mineur. Et la Convention internationale sur les droits de l'enfant traite explicitement, dès ses premiers articles, de la notion de mineur qui, est en général, est appliquée au moins de 18 ans, sauf si, dans certains pays, la majorité est avant. Mais c'est très intéressant.
Donc, pas de majorité sexuelle, majorité légale.
Majorité légale. Mais il est vrai que dans beaucoup de situations où on parle des enfants, il s'agit de mineurs qui sont concernés. Et effectivement, quand on parle des enfants en prison, on parle en fait souvent, le plus souvent, de mineurs en prison, c'est-à-dire des jeunes qui ont 14, 15, 16, 17 ou parfois 18 ans. Mais il est vrai aussi que dans tous les pays du monde, il y a un problème d'enfants en prison et pas seulement un problème de mineurs en prison. Donc c'est vrai qu'un enfant de 8 ans en prison et un enfant de 16 ans en prison, ce n'est pas tout à fait la même chose. Pour ce qui nous concerne à Terre des Hommes, nous considérons que toute mineure de moins de 15 ans qui est sous une forme ou sous une autre de détention doit être sortie de toute forme de détention. Je dis ça de manière générale parce qu'on parle des enfants en prison, mais il y a un tas d'autres institutions où il y a un tas d'autres formes de détention que la prison telle qu'on la voit habituellement. Alors, ce que nous nous attachons à faire sur le terrain, l'école, je ne sais pas, mais il y a des institutions sociales dans certains pays, effectivement, qui sont de véritables prisons et qui doivent être considérées comme telles.
Lorsque vous dites des enfants en prison, vous considérez également les enfants qui vivent avec leurs parents en prison, sans être forcément, par exemple, eux-mêmes concernés par une quelconque accusation.
Absolument. Il y a, et nous avons à Terre des Hommes, des programmes pour des enfants qui vivent en prison, qui sont nés en prison et qui, à l'âge de 5, 6, 8 ou 10 ans, sont encore en prison avec notamment leur mère. Et nous essayons là de faire quelque chose sans forcément retirer l'enfant de la présence de sa mère. Et ce n'est pas facile.
Alors, voyons un petit peu les choses. Lorsque l'on parle aussi des enfants dont vous cherchez à vous occuper, on a tout de suite en tête effectivement des images. Vous avez contribué effectivement à médiatiser, si on peut dire, le problème. Là aussi, il y a toujours un risque, effectivement, c'est d'avoir quelques images au détriment d'autres. Bien, il faut bien commencer quelque part, c'est vrai. On parle beaucoup des enfants des rues. On parle beaucoup de prostitution infantile, etc. On a tout de suite ces images en tête de certains pays comme le Brésil ou la Thaïlande. En fait, les principaux enfants concernés, je dirais majoritairement au niveau du nombre, sont souvent dans les zones urbaines. Ils vivent dans les zones urbaines essentiellement.
Tout à fait. Le phénomène de l'urbanisation des pays du tiers-monde, on ne va pas réexpliquer ça, tout le monde le sait, tout le monde le voit. Ce qu'on ne dit pas assez, c'est que l'urbanisation des pays du tiers-monde entraîne très souvent l'éclatement des familles. Et l'éclatement des familles veut dire que dans la plupart des grandes villes où il y a une forte proportion de malnutrition, par exemple, il s'agit d'enfants qui sont seuls avec leur mère. Et alors là, les enfants, très jeunes, parfois dès l'âge de 5, 6 ou 8 ans, sont obligés dans la journée d'aller au centre-ville et de se débrouiller pour survivre eux-mêmes et rapporter quelque chose à leur famille. Car dans la situation des enfants des rues, il faut distinguer en gros deux catégories. Les enfants qui sont encore en contact avec leur famille et qui le soient rentrent dans le bidonville ou dans leur quartier. Et d'autres, la deuxième catégorie, ce sont les enfants qui sont complètement abandonnés, qui n'ont plus aucune relation familiale, aucun univers affectif autre que la bande d'enfants. Parce que ces enfants des rues, enfants abandonnés, sont organisés en bandes qui se partagent des territoires, qui luttent entre eux, qui se battent pour des territoires. Quand on demande aux enfants, et à Terre des Hommes, nous avons fait des évaluations de situation d'enfants des rues. Savez-vous, quand on leur demande quelle est la chose que vous souhaitez d'abord, que vous demandez d'abord, savez-vous quelle est d'abord leur réponse ?
Vous la connaissez ?
La première chose qu'ils demandent, très majoritairement et tout de suite, c'est dormir en sécurité. Ce n'est pas de manger. C'est dormir en sécurité. Donc il y a une situation dans certains pays qui concerne des millions d'enfants complètement abandonnés, en rupture de liens familiaux et qui n'ont même pas la sécurité pour dormir puisque les bandes se volent entre elles, s'exploitent. Et vous savez aussi le problème de l'assassinat des enfants abandonnés, des enfants des rues. Et là, j'aimerais insister sur un point. Ça devient à une échelle telle, notamment en Amérique latine, et ça va augmenter avec le sida, ça devient à une échelle telle, c'est plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'enfants ou de mineurs assassinés par des escadrons de la mort en Amérique latine. Il va falloir qu'un jour, sur le plan juridique, il va falloir qu'on fasse intervenir la notion de crime contre l'humanité, car il s'agit là de quelque chose de systématique, d'organisé, et qui fait l'objet de transactions financières. L'assassinat des enfants et des mineurs fait l'objet de transactions financières de la part de groupes qui ont intérêt pour leur sécurité, de groupes de commerçants ou de groupes de quartiers riches, qui payent des tueurs à gages pour nettoyer les rues, simplement en assassinant les enfants. Et là, les articles, je dispose, par exemple, je peux citer le pays, puisque je dispose, enfin, nous disposons à Terre des Hommes de tous les articles qui sortent dans la presse de ce pays, c'est au Brésil, où il y a plusieurs milliers d'enfants, on cite le chiffre de 4000 enfants et mineurs, encore une fois, hein, de 4000 depuis 1988 ou 89 dans plusieurs grandes villes. Et encore, ce sont les assassinats recensés. C'est-à-dire qu'on a retrouvé, on a eu trace de l'assassinat. Or, ces enfants qui sont complètement abandonnés, qui sont dans les rues, parfois, s'ils n'ont plus de famille, ils n'ont même plus d'identité, c'est-à-dire que personne ne va les réclamer.
La question qu'on va vous poser tout de suite,
Madame,
justement...
Oui,
d'abord, on va lui laisser la parole tout de suite après. La question que on va vous poser pour aller dans le sens de ce débat aussi, c'est en fait 134 pays donc ont signé tout à l'heure. Il faudrait expliquer un peu plus pourquoi finalement ils se sont empressés de signer ou alors, en tout cas vous les ratifiez. Alors, maintenant, peut-être on va vous répondre justement à cette question.
Alors, pour un État de signer et éventuellement de ratifier cette convention internationale sur les droits de l'enfant, c'est une question d'image. C'est pour montrer qu'on est dans un État de droit. Or, on sait très bien que dans beaucoup de pays, l'État de droit est une pure façade. On vient malheureusement pour le peuple de ce pays, on vient de le voir avec le Pérou. Vous savez qu'il y a eu, peut-être qu'il y a eu une campagne de médias qui est partie du Pérou sur les assassinats d'enfants dans les mines d'or de la région amazonienne du Pérou. C'est sorti dans les médias. Et quand ça sort dans les médias, qu'est-ce que fait un État? Un État dit « on va faire une enquête ». Et dès lors que l'enquête a été annoncée, plus personne ne s'occupe ensuite du suivi de cette enquête et des résultats de cette enquête. Et en fait, on a vu, par exemple, ces dernières semaines au Pérou, l'abolition de toutes de la Constitution, etc. Je veux dire, l'État de droit est très souvent une façade. Nous sommes habitués, nous, en Occident, à vivre... dans une réflexion sur la référence au droit, et nous pouvons nous réclamer, nous pouvons faire recours, nous pouvons dénoncer, etc. Dans beaucoup de ces pays, tous les gens qui voudraient dénoncer et qui ne le peuvent pas sont obligés de se taire parce qu'ils sont eux-mêmes menacés. Et c'est dans cet esprit-là, et je termine sur ce point, c'est dans cet esprit-là que beaucoup de militants des droits de l'homme dans beaucoup de pays du tiers-monde demandent et souhaitent avoir ce qu'on peut appeler des relais internationaux. C'est au fond ce que fait Amnesty pour les prisonniers politiques. Pour défendre les droits de l'homme, il y a besoin de relais internationaux car les gens sont menacés dans leur propre pays.
Alors, en fonction de ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas besoin d'aller très loin, n'est-ce pas? La Suisse a ratifié cette convention. Non, la Suisse l'a signée, pardon, mais précisément a des problèmes pour la ratifier parce que en Suisse même... nous ne respectons pas tous les droits que peuvent émettre les enfants. Deux exemples. Le premier, c'est le gros problème et le grand problème du statut des saisonniers. Les enfants ont un droit à l'éducation, ils ont un droit à l'information que ce statut ne permet pas de respecter indiscutablement. Le deuxième, c'est que les enfants ont droit à l'information, ont droit au respect et ont droit à la responsabilité de leurs parents. Et par conséquent, ils ont un droit d'intervention. On peut imaginer qu'ils aient un droit d'intervention dans une procédure en divorce. En France, il y a déjà eu, je crois, trois cas de juges qui ont accordé à des enfants le droit d'être partie dans une procédure en divorce. Ça n'a pas encore été le cas en Suisse, mais on peut imaginer que ça puisse être le cas. En tout cas, on peut imaginer que les enfants soient effectivement reconnus comme partis dans le cadre d'un procès impliquant certains de leurs droits.
Oui, ça risque d'être changé beaucoup de choses, justement, notamment en Suisse à ce sujet. Oui, un mot.
Oui, ça risque de prendre beaucoup de temps en Suisse, comme toutes les procédures juridiques nationales ou internationales. Il y a trois choses qui bloquent un petit peu pour la ratification par la Suisse de la Convention. C'est l'histoire, donc, d'abord du regroupement familial pour les saisonniers. Il y a aussi le fait que beaucoup de législations sur les mineurs sont des législations cantonales. Et c'est le même problème aux États-Unis. Je rappelle que les États-Unis n'ont pas signé ni ratifié cette convention internationale. Et enfin, un troisième aspect, mais qui n'est pas un obstacle fondamental, mais qui suppose des modifications, c'est le fait qu'en Suisse, à ma connaissance, les mineurs peuvent être incarcérés dans des prisons avec adultes.
Oui, c'est effectivement le cas.
Mais on ne peut pas dire qu'il y a un blocage général du même type que le blocage des États-Unis pour signer cette convention. C'est plus une question d'adaptation de loi et de lenteur administrative, à ma connaissance.
Une question que je vais vous poser qui concerne vraiment beaucoup de gens et qui sensibilise beaucoup de personnes en Suisse, c'est en quoi cette convention internationale qui a été soit signée, soit ratifiée par les États, conçoit l'adoption des enfants ? Comment est-ce qu'elle la conçoit ? Comment elle en donne la forme et les limites ?
Oui, elle affirme, la convention internationale, affirme le droit fondamental des enfants à avoir des parents. Donc sur ce plan-là, le principe de l'adoption internationale est explicite et ouvert. Maintenant, il est vrai que la formulation de ces articles sur l'adoption a été extrêmement difficile, notamment à cause des réticences des pays musulmans qui, en fait, il ne faut pas y voir un blocage ou une interdiction totale. C'est vraiment une question culturelle, une question religieuse aussi. Mais il y a des recherches qui se font actuellement dans plusieurs pays sur l'adaptation de la notion d'adoption internationale en termes ou adaptée aux pays musulmans. Donc là, on ne prendrait pas le terme d'adoption, on prendrait le terme de famille d'accueil, etc. Donc ce n'est pas, complètement fermé. Mais là, c'est le travail des défenseurs des droits de l'enfant dans les pays musulmans d'étudier ce qui, dans les textes religieux ou juridiques, permettrait de s'adapter à la convention internationale que ces États signent. Et le travail se fait. Il est lent. Et c'est beaucoup une affaire de mentalité. Donc c'est normal que ce soit lent. Mais là, il ne faut pas non plus noircir les choses. Ce n'est pas simple. Mais ça progresse.
Et puis alors, vous avez le choc entre deux législations, qui est toujours une législation cantonale, et la convention ou d'autres droits en matière d'adoption, qui fait que vous ne pouvez pas, sur le plan juridique, donner une réponse. On peut admettre qu'il y a un droit à l'enfant d'avoir une famille, mais évidemment, la réalisation de ce droit est quand même plus difficile, plus compliquée sur le plan juridique que le respect de son intégrité corporelle, n'est-ce pas ? On peut admettre que on peut relativement facilement supprimer le travail des enfants à 6 ans ou à 7 ans ou l'exploitation des enfants. L'adoption implique plusieurs législations, plusieurs droits, plusieurs personnes. Par conséquent, c'est pas au même, je dirais, on n'est pas au même niveau de possibilité d'application.
Maintenant, il y a un autre aspect qui est important que de cette convention internationale que l'on rencontre en Suisse aussi. C'est une campagne qui a été lancée à plusieurs reprises par différents.
C'est extrêmement clair. En ce qui concerne les adultes, nous sommes très libéraux. J'entends, on ne parle pas des problèmes des adultes. On considère que les adultes doivent se prendre en charge. Et par conséquent, il ne s'agit pas d'une action contre la pornographie, d'une action contre la prostitution, etc. Il s'agit d'une action pour la protection de l'enfant. Et nous estimons qu'il est absolument anormal, qu'il est scandaleux d'utiliser des enfants pour la satisfaction de plaisirs sexuels dont ils souffrent. Par conséquent, ou contre lesquels ils ne peuvent pas se protéger. Par conséquent, c'est ça que nous voulons dénoncer. Ça n'est pas ça n'est pas la pornographie en elle-même ou ça n'est pas la prostitution en elle-même. Alors, il y a les deux choses. Il y a les enfants battus et il y a cette exploitation des enfants. En ce qui concerne les enfants battus, je vous dirais que il y a aussi en Suisse énormément à faire. Alors, il y a dans le canton de Vaud a nommé pour la première fois en Suisse un délégué à la prévention contre les enfants battus ou contre les attaques des enfants. Il s'agit précisément de M. Georges Glatz, qui est à la base de la création du CID. Le CID remonte, l'idée de M. Glatz avec le CID remonte à 1983. Nous n'avons malheureusement pas pu, pour multiples raisons, notamment financières, développer le CID à ce moment-là. Mais nous, et puis surtout, il y avait une question aussi de comité, d'étoffer le comité. Nous avons repris cela en mai 1991. Et Georges Glatz a été nommé cette année, il est entré en fonction cette année dans le canton de Vaud. Alors les enfants battus. Les enfants battus sont un gros problème, aussi en Suisse. Parce que il y a une admission sociale de ne pas faire bouger les choses et de ne pas se mêler un peu de